Il est 19h30, temps universel. Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir l'Afrique, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur les ondes de la Voix de l'Amérique, Le Monde aujourd'hui en direct du studio 13 à Washington. Au micro Morgan Guiriec et Chérubin Dorsil. Bonsoir Chérubin.
Bonsoir Morgan, bonsoir à tous.
Au sommaire ce soir, la RCA, plus d'un millier de personnes ont manifesté ce matin à Bangui pour dire non à la présence de la Séléka dans leur quartier.
Le calme est finalement revenu dans le secteur après l'intervention des forces internationales qui ont dispersé les manifestants.
Au Burkina Faso, opposition et majorité présidentielle n'arrivent pas à s'entendre sur la tenue de pourparlers en vue de résoudre la crise politique. On parle aussi de la grève dans le secteur pétrolier au Tchad. En Malaisie, inquiétude mêlée de frustration deux jours après la disparition d'un Boeing transportant 239 personnes. Ukraine, la Russie resserre l'étau sur la Crimée, tandis que Washington s'apprête à accueillir les nouveaux leaders ukrainiens. Éducation en Guinée, notre correspondant revient sur une pratique qui suscite beaucoup de critiques.
Cette pratique consiste à échanger une bonne note contre le plaisir charnel. Elle trouve ses adeptes dans plusieurs établissements d'enseignement, mais avec des conséquences pour le système éducatif.
Voilà, tous ces titres, nous les développerons dans quelques instants, sans oublier nos pages sport et musique. Mais avant, le journal.
À Bangui, une partie des habitants du PK13 à la sortie nord de la capitale se sont soulevés ce matin et ont barricadé l'axe Bangui-Boili. Ils protestaient contre un possible transfert des combattants de l'ex-Séléka dans une école de la localité. On fait le point avec Nicolas Pinault.
Oui, la grogne a mobilisé plus d'un millier de manifestants venus de plusieurs quartiers et villages de la commune de Bégoua au nord de Bangui. Motif du mécontentement, des rumeurs sur un possible transfert des combattants de l'ex-rébellion Séléka dans l'enceinte de l'école musulmane Hama située au PK16. Poussés par des désirs revanchards contre les ex-rebelles, les manifestants ont barricadé pendant plusieurs heures la route nationale 1 qui mène à Boili. Ils ont ensuite brûlé des pneus et saccagé l'école. Le calme est finalement revenu dans le secteur après l'intervention des forces internationales qui ont dispersé les manifestants. S'agit-il d'une fausse rumeur ? En tout cas, aucune réaction n'est encore enregistrée de la part des autorités centrafricaines. Toujours dans Bangui, la tension reste palpable au PK5, le fief de la communauté musulmane. Plus d'une dizaine de personnes ont été tuées dans ce quartier le week-end dernier, en représailles à l'assassinat de 4 musulmans par des anti-Balaka. Jusqu'à ce lundi, le secteur était encore inaccessible et les commerces toujours fermés. Un calme précaire règne aussi dans la ville de Ndélé, dans le nord du pays. Un accrochage samedi a eu lieu entre les ex-Séléka et les forces sangaristes, tuant 4 Séléka. Le CICR, de son côté, déplore la mort d'un de ses employés dans la ville.
Signalons que la commission onusienne, chargée de faire la lumière sur les exactions RCA, est attendu sur place cette semaine.
Grève dans le secteur pétrolier tchadien. Les employés d'un consortium chinois disent avoir arrêté de travailler hier pour une période de 3 jours reconductible. Évoquant la cherté de la vie, ils réclament une augmentation de salaire de 200%. Le consortium, formé par 2 compagnies chinoises et spécialisées dans la prospection pétrolière, emploie environ 1500 personnes au Tchad. Mohamed Salti en fait partie.
En fait, c'est dans le cadre d'une révision de la convention pour les employés du secteur pétrolier. Donc, ce qu'ils revendiquaient, c'est l'augmentation du salaire de base parce que vu la charité de vie et puis de quelques primes. Donc, la convention a été élaborée il y a de cela à peu près 3-4 ans et c'est arrivé à terme. Donc, les discussions ont eu lieu avec le patronat dans le cadre de cette révision et puis ces revendications que j'ai énumérées font partie de la révision. Donc c'est plutôt beaucoup plus une discussion qui a eu lieu entre le syndicat des employés et puis le patronat.
Blocage dans les pourparlers entre l'opposition et la majorité présidentielle au Burkina Faso. Ce matin, la rencontre a duré à peine 1 heure. L'opposition a insisté pour que la majorité présidentielle produise un mandat signé des mains du président Blaise Compaoré. Et rappelons que ces négociations entrent dans le cadre de la médiation dirigée par l'ancien président burkinabé Jean-Baptiste Ouédraogo pour tenter de régler la crise politique dans le pays. Alors, quelles peuvent être les implications de cet échec sur la situation politique au Burkina Faso? Bagassi Koura a posé la question au journaliste Newton Ahmed Barry.
À la limite, on repart à la case départ. Il n'y a pas eu de consensus sur rien, donc toutes les options sont sur la table. Y compris même, nous l'avions écrit dans notre journal en début janvier, y compris aussi un coup d'État. N'oubliez pas que c'est un pays où la démocratie, la tradition démocratique n'est pas solidement établie, et très souvent l'armée n'hésite pas à arbitrer les débats politiques. On a posé la question de confiance sur la possibilité d'application des mesures qui en découleraient éventuellement. Et il fallait des garanties avant de négocier. Malheureusement, il n'y a pas eu de ces garanties-là. Donc, donner un mandat clair aux négociateurs qui parlent au nom du chef de l'État, ça aurait été évidemment la voie la plus intéressante pour aboutir à une négociation qui aurait des chances d'avoir des suites. Or, parce que le vrai problème, c'est le chef de l'État lui-même qui est le problème aujourd'hui de la négociation, et non pas quelqu'un d'autre, puisque c'est autour de sa prétention à rester au pouvoir qu'il y a problème, au-delà de la Constitution. Mais le rapport de force, éventuellement, en tout cas, n'est pas favorable au chef de l'État aujourd'hui.
Le bilan s'alourdit au large du Yémen suite au naufrage d'un bateau. Les autorités yéménites comptent désormais 42 migrants africains noyés. Elles affirment par ailleurs que 30 personnes ont pu être sauvées par la marine yéménite en mer d'Arabie. En provenance d'Afrique du Nord, l'embarcation de fortune a coulé hier. Ces candidats à l'immigration clandestine seraient essentiellement des Éthiopiens et des Somaliens.
Les États-Unis mettent en garde contre la vente non autorisée de pétrole en Libye. Ceux qui achètent du pétrole volé pourraient faire face à des poursuites et des sanctions. Washington rappelle que l'or noir libyen appartient à la Compagnie nationale de pétrole et ses partenaires, parmi lesquels on retrouve des entreprises américaines. Le département d'État réagit ainsi à la tentative de vente de pétrole par des miliciens. Un navire-citerne battant pavillon nord-coréen a cherché à quitter les côtes libyennes, mais a été empêché par les autorités.
Le procès d'Oscar Pistorius se poursuit en Afrique du Sud. Accusé du meurtre de sa petite amie, le célèbre coureur olympique a vomi à plusieurs reprises aujourd'hui durant la lecture d'un rapport d'autopsie sur les blessures subies par la victime.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Crise ukrainienne, les troupes russes ont resserré les taux autour de la Crimée alors que la région s'apprête à tenir un référendum sur son rattachement à la Russie. Les précisions de Lionel Gaïma.
Le chef de la commission électorale de Crimée, Mikhaïlo Malichev, a fait savoir aujourd'hui qu'il poursuit des préparatifs du référendum prévu dimanche. Tous les citoyens inscrits sur le territoire de la République autonome de Crimée ont le droit de prendre part à ce référendum. En clair, rien ne les empêchera de voter. De leur côté, les forces russes ont encerclé un autre poste à la frontière ouest de la Crimée, bloquant 30 personnes à l'intérieur. Selon un porte-parole ukrainien, les soldats russes contrôlent maintenant 11 postes frontaliers en Crimée. La Russie a démenti avoir déployé des troupes en Crimée au-delà de celles régulièrement stationnées dans sa base de la mer Noire. Les manifestations pro- et anti-russes se multiplient en Crimée et à travers l'Ukraine. Le premier ministre intérimaire ukrainien, Arseniy Yatsenyuk, est attendu mercredi ici à Washington pour discuter avec le président Barack Obama du bras de fer en Crimée.
Où est passé le Boeing 777 de Malaysia Airlines, disparu samedi avec 239 personnes à bord? Le mystère reste entier alors que les enquêteurs écartent maintenant tout lien entre l'avion et une nappe de pétrole observée le long de la côte vietnamienne. Timothée Donangmaï.
À Kuala Lumpur, les autorités disent que le carburant prélevé en mer au large de la Malaisie ne provient pas du Boeing 777 de Malaysia Airlines. Des analyses ont révélé que ce carburant n'est pas utilisé pour les avions, mais pour les navires. Plus de deux jours après la disparition de l'appareil des écrans radars, rien n'a été trouvé malgré des nouvelles faisant état de débris flottant au sud du Vietnam. Nous n'avons rien trouvé qui semble provenir de l'appareil, encore moins l'appareil lui-même, a dit le directeur de l'aviation civile malaisienne. Le vol 370 a disparu samedi matin, environ une heure après avoir décollé de Kuala Lumpur à destination de Pékin. Les autorités ne rejettent aucune piste possible, mais jusqu'à présent, les recherches ont été vaines. Environ deux tiers des passagers sont de nationalité chinoise. Les autres viennent d'autres pays asiatiques, de l'Europe et de l'Amérique du Nord. Des enquêteurs de huit pays, y compris les États-Unis, travaillent dans la zone de recherche tandis qu'ils examinent le cas de deux passagers ayant utilisé deux faux passeports italiens et autrichiens.
Un groupe de religieuses orthodoxes grecques détenues par les rebelles depuis décembre sont de retour en Syrie, un jour après avoir été libérées au Liban voisin. Les 13 moniales et 3 auxiliaires sont arrivés lundi matin à Jdeidet Yabous, une petite ville près de la frontière, à environ 30 km au nord-ouest de Damas. Une des religieuses a exprimé sa gratitude après son retour en Syrie.
Nous sommes très heureuses de revenir en bonne santé, Dieu merci. Nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont aidés à retrouver notre liberté.
La responsable du monastère de Sainte-Thècle a également déclaré que le groupe était bien traité en captivité et a remercié le président Bachar al-Assad et les responsables libanais d'avoir contribué à leur libération.
Présidentielle en Afghanistan, les talibans mettent en garde les électeurs contre toute participation au scrutin du 5 avril prochain. Les djihadistes, qui exigent le rejet total de l'élection, recommandent aux Afghans de ne pas se mettre en danger en se rendant aux urnes. Dans le même temps, les talibans demandent à leurs combattants de perturber le vote, qu'ils perçoivent comme un complot américain.
Élections législatives en Corée du Nord, les médias d'État annoncent la victoire du leader Kim Jong-un dans sa localité. Son résultat, écoutez bien, 100% des électeurs ont voté et l'ont tous choisi pour les représenter. C'est le premier scrutin du genre sous le règne du jeune leader qui peut maintenant ajouter à ses nombreux titres celui de membre du Parlement nord-coréen.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique. Au micro, Morgane Guyayek et Chérubin Dorsil. En Côte d'Ivoire, la course d'obstacles a commencé pour les élections générales de 2015, Gabi.
Tous les acteurs politiques ivoiriens s'accordent, Morgane, sur la nécessité de la réforme de la commission électorale. Le National Democratic Institute, qui vient d'effectuer un audit du processus, tire les mêmes conclusions. Alors, pour évoquer les enjeux de cette réforme, écoutons Fernand Julien Gauze. Il est président du réseau des organisations de la société civile en Côte d'Ivoire.
Les accords politiques de Pretoria qui ont prévu la composition de la commission actuelle avaient clairement prescrit que cette composition ne valait pour cette commission électorale indépendante que pour les élections générales de sortie de crise, à savoir les élections présidentielles et les élections législatives. Donc normalement, dès la fin de ces deux élections générales, on aurait dû recomposer la commission électorale indépendante. Mais le contexte très belliciste de l'époque, très conflictuel de l'époque, peut-être à justifier que l'on maintienne des choses à l'État pour éviter de mettre peut-être le pays en péril à nouveau. Et donc, la commission actuelle a continué son action au-delà des limites que lui avait indiquées l'accord de Pretoria dont elle possède. Étant entendu que si la constitution ivoirienne a prévu une commission électorale indépendante, elle n'en a pas prévu une composition dans des termes précis au plan constitutionnel. Eh bien, il faut un consensus politique. Et si bien les résolutions des Nations Unies que les recommandations de l'Union africaine relativement à la sortie de crise prescrivent toute la nécessité, insiste sur la nécessité d'un consensus politique au plan national comme préalable à la recomposition de la commission électorale indépendante. Et je pense que c'est aujourd'hui là où se trouve le nœud du problème.
À quel changement devrait-on s'attendre si la commission devrait être réformée?
Alors, la société civile ivoirienne a souhaité depuis de longue date la réforme de la commission électorale indépendante pour la rendre conforme à ce que la Constitution prévoit, à savoir une commission qui organise des élections dans un climat apaisé avec une réputation, j'allais dire, de transparence et de crédibilité. Alors, la société civile a formulé des propositions desquelles il ressort que la commission électorale indépendante devait être dépolitisée pour être formée autour d'experts et de technocrates qui sont choisis non pas par rapport à leur appartement politique, mais par rapport à leurs compétences, à leur expertise et à leur expérience en matière de processus électoral. Aujourd'hui donc, dans les propositions que le NDI a faites, l'on retient qu'il faut donc une composition tripartite, à savoir d'un côté les partis politiques, de l'autre la société civile et de l'autre encore les agences gouvernementales qui soient en rapport avec les élections.
Fernand Julien Gauze, président du réseau des organisations de la société civile, joint à Abidjan par Jean-Roger Billon.
La Voix de l'Amérique en FM à Abidjan, 24 heures sur 24. Branchez-vous sur 99, votre fréquence VOA à Abidjan.
Les troupes somaliennes et africaines affirment avoir repris des régions jusqu'ici contrôlées par les militants d'Al-Shabaab.
Il s'agit du début d'une offensive visant à chasser le groupe rebelle de ses derniers bastions, affirment les autorités somaliennes. Les précisions de Michel Joseph.
L'opération a démarré vendredi et, selon le porte-parole du gouvernement somalien, Abdirahman Omar Osman, elle a permis de reprendre diverses villes. Au cours du week-end, nous avons reconquis au moins 5 villes clés dans les régions de Bayi et Bakoul que les forces nationales somaliennes et de la MISOM ont reprises à Al-Shabaab, a expliqué le porte-parole. Parmi ces villes figure Bouroubo, une des plus importantes bases d'Al-Shabaab, selon le service somali de la VOA. Des habitants locaux ont fait état de violents combats vendredi, mais la MISOM dit que les insurgés ont en grande partie battu en retraite à la vue des troupes de la coalition. Celle-ci n'avait plus enregistré de victoire majeure depuis la reconquête par les forces kenyanes du port de Kismayo en 2012. Selon le porte-parole somalien Abdirahman Omar Osman, les combats du week-end s'inscrivent dans le cadre d'une campagne militaire plus étendue. Notre objectif, a-t-il dit, est de ne pas arrêter l'opération avant d'avoir repris contrôle de toutes les circonscriptions et toutes les zones qu'occupe actuellement Al-Shabaab. Dans un message audio publié sur un site internet djihadiste, le leader d'Al-Shabaab a appelé les Somaliens à prendre les armes contre les forces étrangères. J'appelle tous les combattants à défendre la religion et à se battre contre les ennemis. Les soldats éthiopiens venus de milliers de kilomètres ne doivent pas prendre le meilleur sur vous, a dit Ahmed Abdi Godane dans son message.
La Gambie annonce que la langue officielle ne sera plus l'anglais. Le président Yahya Jammeh a affirmé ne plus croire qu'il fallait parler la langue de Shakespeare pour faire partie du gouvernement. L'annonce intervient après le retrait de la Gambie du Commonwealth, mais aussi après les critiques du Royaume-Uni contre son ancienne colonie en matière de respect des droits de la personne. L'Afrique du Sud, de son côté, va introduire, non sans critique, le mandarin dans certaines écoles. Pour décortiquer ces deux cas de figure diamétralement opposés, Jacques Aristide a contacté Jérémy Kouadio, expert ivoirien en politique linguistique.
C'est dommage, parce qu'une langue, on ne peut pas décider comme ça d'enseigner une langue. Est-ce que les préalables sont là? Est-ce qu'on fait de la recherche? Est-ce qu'on fait des expériences? Je ne crois pas. Est-ce qu'il y a de la littérature? Est-ce que c'est prêt? Si c'est par réaction, je trouve que c'est complètement une fausse route qu'il prend. Parce que de toute façon, on ne peut pas priver la population gambienne de l'anglais. Même si on veut introduire une autre langue, ça ne doit pas se faire en concurrence, ça doit se faire en complémentarité. Si c'est par réaction, je trouve que c'est une mauvaise décision.
À l'ère de l'Internet, à l'ère du commerce international, la Gambie peut-elle vraiment se permettre de se débarrasser de l'anglais?
Je ne crois pas. Et puis, de toute façon, tous les pays anglophones, francophones, même si nous luttons pour que d'autres des langues africaines émergent, il n'a jamais été question de rejeter l'anglais, le français, le portugais, l'espagnol, etc. C'est dans le sens de développer la langue locale en complémentarité avec l'anglais pour que cette langue-là exprime le vécu des populations et que l'anglais vienne en plus. Ça, ce serait une bonne décision. Mais apparemment, je crois que c'est une réaction à quelque chose. Je trouve que se précipiter dans des circonstances pareilles, en général, ça ne bouge pas sur de bonnes choses. Et moi, je ne suis pas d'accord pour ce type de réaction.
De l'autre côté, vous avez l'Afrique du Sud qui va introduire le mandarin dans le cursus scolaire. Pourquoi le mandarin, professeur?
Je crois qu'on ne peut pas reprocher tellement l'Afrique du Sud parce que voilà un pays qui, à côté de l'anglais et de l'africaneur, a décidé de développer une dizaine de langues africaines. Et si en plus, elle vient ajouter le mandarin, le chinois, je pense que tout le monde sait que la Chine aujourd'hui est un partenaire incontournable au niveau mondial. Donc je pense à ajouter quelque chose en plus de ce qu'ils ont déjà parce que c'est l'un des rares pays africains qui développe véritablement une dizaine de langues africaines à côté de l'africaneur et de l'anglais. Donc ce n'est pas une décision véritablement à condamner et à prendre le chinois, je pense que c'est un plus plutôt qu'un moins.
Donc quelque part, c'est pour se rapprocher davantage de la Chine, force économique.
Oui, et d'ailleurs, dans les universités africaines, on cherche aujourd'hui à introduire l'enseignement du mandarin à côté du japonais, à côté du français, de l'anglais et de l'espagnol. Donc c'est plus d'ouverture et surtout que la Chine, au niveau du commerce mondial, est devenue incontournable. Donc je pense que c'est pas condamnable, c'est un plus plutôt qu'un moins.
Jérémy Kouadio, professeur de linguistique à l'université Félix Houphouët-Boigny, joint à Abidjan.
En Guinée, certains pointent du doigt les tenues des étudiants. Et vous savez pourquoi, Morgane ?
Leur façon de s'habiller, Gabi, serait liée à leur relation douteuse avec les enseignants. Ces derniers sont accusés de leur accorder un traitement de faveur, une bonne note en échange d'un rendez-vous. Le reportage de Zakaria Camara.
Les notes sexuellement transmissibles, j'ai été victime de ça.
Moi, je me dis que ça se trouve des côtés.
Même si c'est moi à la place du professeur, je serais excité.
NST, entendez, notes sexuellement transmissibles, tel est le nom donné aux fruits d'une pratique qui ne date pas d'aujourd'hui. Mohamed Tambassa, étudiant, a connu une mésaventure il y a quelques années.
Lorsque je faisais la 9e année, j'avais une copine, on faisait la même salle, quoi. Après, il y avait un autre professeur de français qui a voulu draguer la fille, quoi. Mais la fille, réellement, à ce moment, on s'aimait. Donc la fille a dit catégoriquement au professeur que j'ai un gars ici dans ma classe. Dès que moi, le professeur s'est pris à moi. Donc quand il vient en classe, il me met dehors, il me donne des mauvaises notes. Une fois, on s'est même battu en classe. Après, on est parti à la direction. On m'a renvoyé de l'école, j'ai fait une semaine.
Cette pratique consiste à échanger une bonne note contre le plaisir charnel. Elle trouve ses adeptes dans plusieurs établissements d'enseignement, mais avec des conséquences pour le système éducatif. Mohamed Mangué Bangoura enseigne les statistiques dans une université de la capitale.
Mon constat est que les responsabilités sont partagées. Dans les conditions normales, ça a un impact négatif. Parce que ça ne se passe pas avec tout le monde. Toi, tu es en relation avec un professeur. Si c'est vrai que tu es en relation avec la personne, est-ce que son cours va t'intéresser? Lui, pour son cours, déjà, tu me crois. C'est que tu n'as pas de souci pour les notes maintenant. Maintenant, l'inverse sur le professeur, si, vous savez, les étudiants parlent entre elles. Maintenant, si deux ou trois étudiants apprennent que tel fils sort avec tel professeur, est-ce que les étudiants vont accorder de l'importance à son cours? Donc, ça veut dire que la crédibilité va baisser.
Pas de fumée sans feu, dit-on, et pour ce jeune élève, les filles doivent avoir un peu de décence dans leur façon de s'habiller.
Aujourd'hui, nos soeurs portent des jeans et portent les collants qui viennent de sortir là. Il y a d'autres qui peuvent porter les collants là, qui ne sont même pas tellement bien, ça peut se déchirer. Quand un professeur voit ça, peut être excité en fonction des habillements des étudiantes, même par rapport à leurs collègues même, peut exciter leurs collègues en fonction de ça. Quand il voit que la fille vient avec des habillements, montre des seins, des fesses sont bien bombées, même si c'est moi à la place du professeur, je serais excité.
Les quelques exemples connus ne sont que la partie visible de l'iceberg. Est-elle une maladie contagieuse? La note sexuellement transmissible va d'une fille à l'autre dans la plus grande discrétion des complices. Conakry, Zakaria Camara pour La Voix de l'Amérique.
Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique. Place au sport avec Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir Chéroumen, bonsoir à tous.
La Ligue africaine des champions, les choses se précisent.
Oui, il reste 16 équipes en liste pour le trophée continental. Reporté en raison des fortes pluies sur Rades, la rencontre Espérance-Tunis, Gormaya de Guinée, s'est déroulée ce lundi avec le carton 5-0 des Tunisiens, dont un triplé de Juini hier. Hier, Mazembe n'a pas tremblé. Victoire 3-0 devant les Astres de Douala. Victoire timide du CEO Sport San Pedro, 1-0 devant les Libériens du Barack Young Club. Kofi Firmin Kouakou est entraîneur adjoint du CEO Sport.
Oui, oui, de justesse, parce que là, on avait en face de nous une bonne équipe. Voilà une équipe qui savait jouer quand elle avait le ballon et qui savait aussi défendre quand elle n'avait pas le ballon. Alors déjà, au match aller, ça a été difficile parce que cette équipe-là a été poussée par son public. Bien, et on est venu, on a travaillé un peu ce qu'il fallait faire. Nos joueurs travaillaient un peu devant les buts, voilà, sérieusement travaillé devant les buts. Mais vraiment, on a manqué de réalisme. Et par la grâce de Dieu, chemin faisant, on a pu obtenir ce petit but-là qui nous a donné cette qualification. Il nous a fait pousser un ouf de soulagement vers la fin quelque part. Voilà.
Le CEO Sport pense à présent que la qualification pour la phase de poule est possible?
Bien, nous jouons pour la qualification pour la phase de poule. Hein. C'est vrai qu'on a un gros adversaire devant nous, mais le football reste le football. Nous croyons nos chances. Parce que déjà, la qualification va se jouer d'abord chez nous à domicile. Et puis en plus de cela, une semaine après, on va s'envoler pour le Congo. Le Congo, vraiment, ça ne sera pas facile, mais nous ferons tout et tout pour pouvoir accéder en phase de poule.
Voilà, nous ferons tout et tout pour accéder aux phases de poule. Kofi Firmin Kouakou, entraîneur du adjoint donc, du CEO Sport. Ça passe de justesse pour les Égyptiens d'Al Ahly qui se qualifient au TAB devant les Tanzaniens de Young African. Le Coton Sport de Garoua au Cameroun en pleine confiance. Victoire 5-0 devant le club burundais du Flambeau de l'Est, El Hilal du Soudan. Stade malien 2-0 donc pour les Soudanais. Et 1-0 pour l'AS Vita Club de la RDC face au Dynamos de Zimbabwe. En Coupe de la Confédération, les 16e de finale retour de la Coupe de la Confédération se sont déroulés durant le week-end écoulé. Hier, Al Ismaïlia d'Égypte a affronté MK Étanchéité 4-3 sur pénalty. Donc, Wadi Degla d'Égypte a battu l'AS Douane du Togo 2-0. Le Djoliba s'impose à Bamako devant le club congolais de Don Bosco 1-0, suffisant grâce au but marqué à Kinshasa. Écoutons Abderak Chlil, entraîneur du Djoliba.
D'abord, laissez-moi féliciter mes joueurs parce qu'ils ont livré une partie intéressante au niveau de la combativité, au niveau de l'abnégation, au niveau du courage. Ils ont bien géré le match. On a mal commencé, comme vous l'avez vu, la première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, nous nous sommes rattrapés. Et le but que nous avons marqué à la 44e minute nous a un peu libérés. Normalement, on devait avoir un score mieux que ça, déjà à Lumumbashi, mais c'est ce qui nous a un peu handicapés. Nous a laissé un peu sur nos nerfs. Là, je pense que c'est une bonne victoire, même si elle est faite difficilement.
Abderazak Chlil, entraîneur du Djoliba. Voilà, Chérubin, voici pour le sport.
Merci, Bagassi Koura.
Le Monde aujourd'hui, c'est presque fini. Et comme tous les soirs, on se quitte en musique. À nos côtés en studio, Roger Muntou. Salut Roger.
Salut Morgane. Alors Morgane, une question. Est-ce que t'aimes bien Pharrell Williams?
Oui, j'aime bien. Ah, surtout, ben j'aime bien I'm Happy.
Ah, oh, ben écoute, là on est amis alors. Là c'est bon, là ça va. Mais écoute, Pharrell Williams est partout maintenant. Hein. Il est la voix la plus entendue du moment. Il était dans Daft Punk, dans Jay-Z, dans même le film Moche et Méchant. Et on le trouve chez Beyoncé et Miley Cyrus. Sa chanson que Morgane adore et numéro 1, numéro 1 de hit parade américain.
Pharrell Williams, qui mine de rien est dans le milieu depuis plus de 20 ans. Roger, il est producteur, auteur-compositeur, multi-instrumentaliste et chanteur.
Exactement. Et c'est comme si c'était pas assez, Morgane. Williams et son ami Nigo, un producteur de disques japonais, ont commencé à travailler sur des lignes de vêtements. Il a même participé à la création des bijoux et des lunettes pour la marque Louis Vuitton. J'espère que t'aimes bien Louis Vuitton aussi, Morgane.
Oui. C'est un peu clinquant à mon goût, mais...
Mais voilà, il est trop fort. Écoutons Happy.
No offense to you, don't waste your time. Here's why. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Hey, go! Bring me down, can't run. Bring me down, your love is too high. Bring me down, can't run. Bring me down, I said, tell you now. Bring me down, can't run. Bring me down, your love is too high. Bring me down, can't run. Bring me down, I said,
because I'm happy.
Clap along if you feel like a room without a roof.
Voilà, c'était Pharrell Williams dans Happy. Merci Roger.
De rien Morgane.
Roger Muntou, vous retrouvez tous les soirs et là dans pas longtemps dans le RM Show à 20h temps universel.
Et c'est déjà la fin de l'émission?
Ben oui, ainsi s'achève Le Monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Lionel Gaïma a dirigé la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. C'était Morgane Guiriec.
Et Chérubin Dorcil.
Et à demain.
Because